Bonjour à tous. Bienvenue. Et puis, on va partager là, ensemble, un passage de l'Écriture. Alors, je ne sais pas comment vous abordez les prédications, les moments de message. Dans l'histoire du protestantisme, à Genève, Jean Calvin disait « Le centre du culte, c'est la prédication ». Ça a un petit peu glissé à notre époque où s'il n'y a pas des chants entraînants, s'il n'y a pas une dynamique de louange, etc., ben le culte n'est pas tout à fait le culte. Mais à l'origine, le protestantisme, c'est comment nous sommes rencontrés par la parole de Dieu et qu'est-ce qu'elle est amenée à transformer, à toucher dans nos vies et à changer dans nos vies. La semaine dernière, on a eu... Vous vous rappelez qui a prêché la semaine dernière ? Vous avez une idée ? Élisabeth, vous vous rappelez sur quel texte elle s'est arrêtée ? Qui s'en rappelle ?
Ah ah !
Vous voyez, c'est... Comment la parole de Dieu ? Oui, Jean-Jacques ? Dalila ? Ah, d'accord. Voilà, donc... La semaine dernière, Elisabeth, moi je vous invite, vous avez le privilège dans l'église d'avoir un site internet avec toutes les prédications. Et la semaine dernière, j'ai été interpellé par le texte que Elisabeth a pris pour nous donner un enseignement. Et c'était dans la deuxième épître de Pierre. Ça vous dit quelque chose ? Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage... une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. Là, j'en ai déjà perdu la moitié. Non ? Ça va ? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ça, c'est une bénédiction. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. J'ai beaucoup aimé l'explication ou l'insistance donnée sur la vertu, c'est-à-dire la force. La vertu, en vieux français, c'est ça, c'est la force. Avoir de la vertu, ce n'est pas simplement avoir une bonne moralité, mais c'était avoir de la force intérieure en tant... Et on va retrouver ça beaucoup dans le discours de Pierre. Voilà, c'était... un message, moi je vous invite à le réécouter. Moi j'ai réécouté les 10 premières minutes, non pas que je ne voulais pas connaître la suite, mais j'avais beaucoup été touché par l'introduction et je me suis dit je vais continuer. Et j'ai vraiment trouvé que cette parole de dimanche dernier était forte et pouvait nous conduire loin dans la relation avec Dieu. Tout, c'est de savoir si on a envie d'aller loin dans la relation avec son Dieu. Et il en va de l'alliance avec Dieu comme celle que nous avons avec notre conjoint, comme celle que nous pouvons avoir avec nos enfants. Il y a une alliance d'amour. Mais est-ce qu'on a envie d'aller loin dans l'alliance d'amour qu'on a avec l'autre ? Parce que cette capacité à aller loin dans l'alliance d'amour avec l'autre dit quelque chose de notre capacité à aller loin dans l'alliance avec Dieu. Si avec ceux, et ça c'est l'apôtre Jean dans ses trois lettres, dit si vous n'arrivez pas à aimer vos frères, comment est-ce que vous allez arriver à aimer votre Dieu ? Hein, donc ça dit quelque chose. Et quand j'ai entendu Elisabeth prêcher la semaine dernière, eh bien je me suis dit, tiens, ça fait écho, excusez-moi, je ne regarde pas mes mails, mais j'essaye de calculer le temps de parole que je peux avoir. Donc... j'essaye de piloter ça, mais c'est pas facile. Donc, je vais me fier à la pendule qui est en face de moi. Il est moins une. Et lorsque j'ai entendu Elisabeth, ça m'a renvoyé à la première épître de Pierre. Là, on était dans la deuxième lettre. Une lettre qu'il adresse, on pense aux églises de la région de la Turquie. Alors, 5 régions différentes, hein, puisqu'il dit, il cite ces 5 régions. Et puis, il est là à essayer d'encourager, en tout cas, ces églises. Alors, est-ce que ça vous a encouragé, vous, en lisant cette parole, ou bien est-ce que, oui, vous l'avez déjà oublié, je ne sais pas. Mais parfois, il est important de revenir dessus. Et moi, ça m'a renvoyé à la première lettre de Pierre, quand j'écoutais Elisabeth, parce qu'il est dit ici que la grâce et la paix vous soient multipliées. Waouh ! Ça, c'est une bénédiction. J'aimerais bien que ça augmente un petit peu dans ta vie, la grâce et la paix. Peut-être d'un cran. Deux, ça serait bien, hein ? Ou bien est-ce que ça peut être multiplié, la grâce et la paix ? Eh bien, moi, je vous ai choisi un verset qu'on va afficher, si possible. C'est 1 Pierre 5, 10. C'est la fin de la première lettre que Pierre a envoyée à ces mêmes chrétiens. Et on va le laisser afficher tout au long de ce message. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. C'est un texte que j'aime beaucoup, qui nous parle de cette notion de grâce et de paix. Après un peu de temps, ce Dieu de grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après un peu de temps de souffrance, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable à lui la puissance au siècle des siècles. Je dirais, quand Elisabeth a parlé la semaine dernière de la grâce et que la paix vous soit multipliée, j'ai été frappé par cette notion de multiplication. Est-ce que ce que Dieu nous donne peut être multiplié, pas additionné ? Et j'ai recherché dans l'Ancien Testament, c'était dans la première partie de la Bible, quelles sont les mentions de multiplication. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Si on recherche, on s'aperçoit qu'à 15 reprises, la Bible dans l'Ancien Testament parle de multiplication. Il y a 3 sur ces 15 versets qui parlent de multiplication. Il y a 3 versets qui parlent de la manière dont Dieu multiplie ses merveilles ou multiplie son peuple. Et les autres versets, à part ces 3 versets-là, les 12 autres versets parlent de la multiplication que font les hommes. 3 versets pour la multiplication de Dieu sur ses merveilles. Il a multiplié ses merveilles. Il a multiplié son peuple. Il l'a fait grandir. Et puis les 12 autres versets, c'est les hommes qui ont multiplié. Et ils ont passé leur temps à multiplier leurs péchés. C'est-à-dire comment ils ont multiplié leurs actions pour se séparer de Dieu. Je dis, tiens, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas des multiplications très positives. Et là, vous avez Pierre qui dit, par exemple, dans la première épître, Elisabeth nous lisait la deuxième épître, ben, au deuxième verset de sa première lettre, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il avait une idée fixe, Pierre, hein, à mon avis. Il voulait que les chrétiens soient au bénéfice de la multiplication de la grâce et de la paix. Alors, dans ces deux, verset 2 de sa première lettre, verset 2 de sa deuxième lettre, que la grâce... À mon avis, il a fait un copier-coller. Vous ne pensez pas ? Vous savez, parfois, on voit ça dans des courriers. Vous avez un copier-coller mal à propos. Et puis on se dit, tiens, ça a dû être un copier-coller mal calculé. Non, c'est la volonté de l'apôtre Pierre que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et on retrouve dans le Nouveau Testament, effectivement, plusieurs versets. Pas nombreux, il y en a 3. Et à chaque fois, c'est la grâce et la paix, sauf dans Jude. La petite épître de Jude, au verset 2, toujours au verset 2, on se dit, tiens, c'est étrange. Mais il dit, Jude, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Ouf, Dieu est le Dieu de la multiplication. Mais pas la multiplication des choses négatives, la multiplication des choses positives et entre autres la grâce et la paix. Alors, l'Église devrait être aussi avec cette multiplication de la grâce et de la paix. Et moi, je trouve que ce qu'on met souvent en avant dans les Églises, en fait, c'est la multiplication des individus. Oh, dans notre église, on est 247. Ouais, qu'est-ce que Dieu est grand et puissant. Le nombre de pasteurs qui font référence au nombre de personnes dans l'église. Je suis arrivé au conseil national de notre église un jour, j'étais resté pour le culte ici, j'avais pris le train dans l'après-midi, j'arrivais le soir du côté de Valence, enfin bon, j'avais fait tout un voyage, et arrivé à 9h, je suis rentré dans la pièce où les pasteurs avaient mangé, il en restait quelques-uns autour de la table en train de papoter, je m'assois pour manger un morceau avec eux, et il y en a un, il me dit, oh, mais dis donc, tu arrives tard, je dis, bah oui, parce que moi, je voulais rester au culte à Kevin avant de venir vous voir. Et il me dit, ah bon, c'est bien, alors, ça s'est bien passé, j'ai dit, oh, ça a été un moment merveilleux, comme souvent à Kevin. On a vraiment vécu une bénédiction. Là, on a senti la présence de Dieu. Vous étiez combien ? On devait être entre 40 et 50. Et vraiment, on a été bénis. Et la réflexion de ce frère, ça m'est resté en mémoire, me dire, mais tu ne devrais pas te réjouir. Tu ne devrais pas te réjouir de n'être que 40 ou 50. Tu devrais te réjouir quand on est 200, 300. Je dis, ben non, moi je me suis réjoui d'être avec ceux qui étaient là pour louer et adorer le Seigneur. Et vous voyez comme quoi les chiffres n'ont pas la même importance. Là, ce que Pierre souhaite, c'est que vous soyez avec une grâce et une paix qui vous soient multipliées. Oula ! Et c'est la connaissance de Dieu qui peut nous permettre, comme il était dit dimanche dernier, je vous renvoie à la prédication de dimanche dernier. C'est la connaissance de Dieu et de sa volonté qui peuvent nous permettre d'expérimenter la croissance en nous de sa grâce et de sa paix. Et si vous n'êtes pas dans cette prise de conscience de cela, si vous dites, mais je suis effondré, c'est dur, les circonstances peuvent être difficiles. On a plusieurs d'entre nous qui sont... qui sont en difficulté dans leur santé et quelque part la situation de notre vie n'est pas toujours un jardin comme dit un chant de jeunesse à mission dans ce recueil-là, un jardin rempli de roses. Parfois j'ai l'impression que j'ai plus d'épines que de roses dans mon jardin, mais même si les circonstances sont difficiles, est-ce que la grâce et la paix peuvent être multipliées à l'intérieur de moi? C'est ce que proclame, et c'est le désir de l'apôtre Pierre. Je ne peux pas vouloir moins pour vous que le désir de l'apôtre Pierre. Ni pour vous, ni pour moi. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre, en bon pédagogue, nous explique le mécanisme spirituel qui permet de vivre cette expérience. Ah, Pierre, il est, vous savez, c'est un pêcheur, donc très pratique. Et je dirais que les prédications, parfois, il faut qu'elles soient pratiques. C'est-à-dire qu'on sache, mais comment on fait pour avoir la grâce et la paix? Alors moi, je peux vous envoyer à une théologie sur la bénédiction, etc., la grâce. Mais l'apôtre Pierre, lui, il dit, ben voilà, dans le texte de sa première lettre, le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. Alors il commence par préciser une chose dans sa lettre pour parler de la grâce et de la paix qu'il cite au tout premier verset de son écrit. C'est Dieu qui m'a appelé à sa gloire éternelle. L'origine de toute chose, c'est Dieu. Est-ce que je suis convaincu qu'il est l'origine de toute bénédiction et de tout ce qui peut me faire du bien? Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle. Est-ce que vous avez ce matin le sentiment que le Dieu de toute grâce en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle? Ouais, pas sûr. Oui, peut-être. Bah, ce matin, vous savez, moi j'ai passé une nuit catastrophique parce que je suis pris par un coup de froid, etc. Ça fait 3-4 jours que je ne dors pas. Bon, à 4 heures, réveillé à 4 heures, je dis, bon, je fais quoi là maintenant? Et puis je me dis, est-ce que ce matin, j'ai le sentiment que le Dieu de toute grâce m'a appelé à sa gloire éternelle? Alors, je vous dirais, Oui, parce que je suis retourné dans mon bureau à 6 heures du matin, et puis j'ai repris ma prédication, les textes. Et puis là, je dis, ouais, c'est chouette, c'est merveilleux. Fiévreux, mais conscient que Dieu m'a appelé à sa gloire éternelle. Ça, c'est l'avantage de ceux qui sont appelés à prêcher, c'est qu'ils sont dedans en permanence. Lors de la réforme protestante, c'est Jean Calvin à Genève qui enseigne que la repentance nous est conférée par Dieu. C'est-à-dire que pour entrer dans cette conviction qu'on est attaché à Dieu et que sa gloire est pour nous, il faut passer par la porte de la repentance les uns et les autres. Et Calvin disait, la repentance nous est conférée par Dieu. Et puis, un des fondateurs, il y a deux frères qui ont été les fondateurs de l'Église apostolique lors du réveil au Pays de Galles, en 1906 à peu près, eh bien, D.P. Williams a insisté sur le fait qu'aucune partie de notre salut, rien dans le salut, y compris la repentance, ne pouvait provenir de mes œuvres à moi ou d'efforts moraux ou religieux. Parce que, disait-il, ça sous-évaluerait le but et la teneur de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire croire que même la repentance, c'est de mon fait. Ouais. Mais vous savez, dans le monde évangélique, ça a été un message qu'on a entendu souvent. En fait, il y a l'œuvre de la croix, c'est la part de Dieu, et la repentance, c'est l'œuvre de l'homme. Ah ben, si c'est l'œuvre de l'homme, ça veut dire que, heureusement que je suis là, parce que sinon, le Seigneur, qu'est-ce qu'il aurait fait, tu vois? Eh bien non, même la repentance, disait D.P. Williams, c'est quelque chose qui relève de Dieu. Et penser autrement, ça saperait la valeur de l'expiation et ça contrarierait la grâce de Dieu. Tout nous vient de Dieu, même la repentance. Ah, vous me dites, vous êtes sûr ça? Parce qu'il faut quand même, ce que disent certains, il faut quand même que je fasse quelque chose. Si je fais rien, ouais, mais si vous regardez dans l'Écriture, la repentance est un don de Dieu, dit la parole, notamment dans le Nouveau Testament, mais pas que. Par exemple, Paul dirait à Timothée, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Tiens, on parle de moi, là. Non, je plaisante, hein. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Dans l'espérance. Donc, ce n'est pas Paul. C'est-à-dire que moi, ça me rassure. Moi, ça ne repose pas sur mes capacités à vous convaincre que vous puissiez vous repentir. C'est Dieu qui donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. On ne peut que exposer, amener, accompagner, mais l'entrée dans la repentance et la repentance elle-même, c'est Dieu qui la donne avec cette capacité à se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Et c'est ça la repentance. Alors vous me direz, oui, mais une fois qu'on est converti, est-ce qu'on en a encore besoin? Si vous êtes parfait, non. Qui est parfait là? Non, personne. Bon, alors donc vous avez besoin de repentance comme moi alors. Eh bien, si vous avez besoin de repentance, ça ne dépendra pas, la repentance en tant que telle, de vos efforts à vous, mais de la manière d'entrer dans ce don que Dieu donne, parce qu'il est un Dieu de grâce, de vous saisir de ses pensées, de sa parole, et de faire en sorte que vous puissiez rentrer dans ses promesses. C'est pernicieux de croire que la repentance, c'est l'effort de l'homme, la part de l'homme. Tout le salut repose sur Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut, en quelque sorte, favoriser le fait de se saisir de cette repentance quand on est dans le besoin de changer, de combattre le péché? Il y a un élément que l'Écriture, notamment, au moins le roi David dans les psaumes, mais aussi l'apôtre Paul évoque, c'est la question de la tristesse selon Dieu. En fait, la repentance, c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 7:10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire qu'on ne regrette jamais cette repentance. Cette tristesse-là qui conduit à la repentance, finalement, on se dit bah, c'était une bonne chose. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, il y a donc une tristesse qui peut venir en nous à un moment donné et qui est une tristesse selon Dieu quand on se rend compte que ce que nous vivons, ce que nous faisons, ce que nous disons, la manière dont nous construisons peut-être nos relations avec l'autre, ce que nous vivons par rapport à nous-mêmes, que cette tristesse-là est une tristesse selon Dieu. Dieu dépose ça en nous en disant « Regarde, éprouve, ressens. Est-ce que cette tristesse peut être présente aujourd'hui dans ta vie ?» En te disant « Voilà, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. » Et puis, Paul dit « Mais parfois, c'est une tristesse selon du monde qui produit la mort. » Et je me dis « Mais est-ce que c'est... » On a des exemples de cela. Moi, je pense souvent à ce qui fait la différence entre Pierre et Judas. L'un va retourner vers Christ rempli de tristesse de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Et il va, dans cette tristesse-là qui vient de Dieu en lui, se repentir et reprendre sa route. Et Judas va être triste aussi. Et il va aller se pendre. La différence est là. La tristesse, selon Dieu, c'est celle qui est déposée dans notre cœur parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas en accord, en adéquation avec les valeurs de Dieu, avec ce qui est de Dieu. Et cette tristesse-là, elle n'est pas destructrice, elle nous conduit à changer, à modifier nos comportements. Alors je vous dis tout de suite, lorsque j'ai choisi ce message, contrairement à ce que j'ai entendu il y a quelque temps en arrière, quelqu'un qui disait « je ne viens plus à l'église parce qu'à chaque fois que Jean-Marc ou Michel prêche, il me vise ». Oui, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui a dit « ah ben non, moi je ne viens plus ». À chaque fois, il me vise. Alors donc, je pense à personne d'entre vous. Et en même temps, je pense à chacun d'entre vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a besoin dans ma vie d'être touché, concerné par la repentance. Et si quelqu'un se dit, moi je suis absolument pas concerné, il faut que je vous rencontre, parce que les gens parfaits, ça m'intéresse toujours. Mais comme je ne serai pas moi parfait avant d'avoir rejoint le Seigneur et d'être dans sa présence, nous avons tous à vivre des temps de repentance pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. La tristesse selon Dieu. Est-ce qu'il y a à un moment donné dans ce que je vis, dans ce que je suis, une tristesse profonde qui s'installe en moi parce que je me sens à distance de la pensée de Dieu pour moi? La tristesse selon Dieu, ce n'est pas la repentance. Elle conduit à la repentance. En cela, on pourrait dire qu'elle est le premier degré, degré au sens de marche. Vous savez, quand on monte un escalier, un degré. Eh bien, que la tristesse, c'est un signal d'alarme. Si dans ton cœur, il y a de la tristesse selon Dieu par rapport à ce que tu es, ce que tu vis, ou ce que l'autre en face de toi peut vivre, ça peut être ça aussi, que quelqu'un te dise « mais je ne suis pas bien en moi, etc. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien dans mes godasses spirituelles, je me sens à côté de mes pompes. » Ou... me dire « bon, mais est-ce que cette tristesse-là, ce mal-être-là, ce n'est pas un signe de ce que tu as à vivre avec le Seigneur. Une tristesse selon Dieu qui peut te faire rentrer, où Dieu et le Saint-Esprit mettent le doigt dans ta vie et pourraient te permettre de multiplier la grâce et la paix. » Parce que c'est ça la pensée de Dieu. Alors, l'apôtre Pierre parle de ces étapes-là. Il vous a appelé à sa gloire éternelle. Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'appelle à sa gloire éternelle? Est-ce que c'est ta conviction? Parce que si c'est ta conviction, alors fais tout ce que tu peux pour t'approprier cette grâce et cette paix. C'est sa pensée, sa volonté pour toi. Alors quand il parle de cela, il propose un chemin qui soit un chemin de transformation, de métanoïa, de changement. La repentance, c'est en grec métanoïa, c'est-à-dire un changement profond, mais à différents niveaux. En fait, la métanoïa, le changement dont il est parlé, c'est d'abord un changement de mentalité. Alors, ça signifie un changement de ce qui est intérieur à moi. Mais quand on dit un changement de mentalité, ce n'est pas simplement un changement d'intelligence, de notion intellectuelle. C'est l'être tout entier qui est invité à changer. La métanoïa, la repentance, concerne l'être tout entier. L'intellect, c'est vrai, mais aussi les émotions, mais aussi le corps. Est-ce que je suis prêt à laisser le Saint-Esprit changer, toucher les domaines de ma vie qui ont besoin d'être transformés? Le premier élément d'un changement de mentalité implique notre intelligence, bien évidemment. C'est notre intelligence qui nous fait comprendre, saisir, réaliser des choses qui ne sont pas correctes par rapport à la pensée, aux valeurs de Dieu. C'est David, le roi David, qui effectue cette démarche et qui, dans le psaume 32, verset 5, dit ceci. Il s'adresse à Dieu et lui dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Ne pas rentrer lorsque le Saint-Esprit nous y invite, ne pas rentrer dans cette démarche de métanoïa, de repentance, c'est se priver de la bénédiction de Dieu. À chaque fois que je dis ça, je pense à Jean-Jacques qui me disait, moi je veux, mais oui, Jean-Jacques, fais pas l'étonner. À chaque fois que je parle de bénédiction, je pense à toi. Et il m'avait dit un jour, moi je veux la baraka. Et en hébreu, baraka, c'est la bénédiction. Tu veux la baraka? Cherche celui qui est à l'origine de cette bénédiction. Et c'est ce que dit David. J'irai faire connaître mon péché à l'Éternel. Je lui ai pas caché. Et honnêtement, notre premier réflexe, c'est celui d'Adam et Ève. Dès qu'ils ont péché au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont? Ah non, ils ont fait quelque chose de très concret. Ils se sont cachés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Fabriqué? Des habits. Alors, pas des habits, ils se sont cachés avec des feuilles, etc. Bon, pas doués hein, quand même, hein. C'est pas du Dior, hein. C'est des feuilles pour cacher leur nudité. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, quand le Saint-Esprit commence à nous montrer des choses qui, en nous, doivent être changées, transformées, parce que ce changement-là est nécessaire pour que la grâce et la paix soient multipliées? Ben, on essaye d'abord de les tenir à distance, du « oui, c'est pas grave » et « oh, 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 oh. » Hein? Non, non, puis il y en a d'autres qui font pire. Hein? Moi, j'en connais, hein. Non, non, pas par là, pas par là. C'est pas nos réflexes, ça? Et puis, à un moment donné, est-ce qu'on est prêt à s'approcher de Dieu? Pas du pasteur, pas de la sœur, tu sais, de Dieu, du Seigneur. Dire, mais Seigneur, oui, je te fais connaître mon péché. Je veux pas te cacher mon iniquité. Là, ce que je suis, cette tristesse qui m'habite par rapport à ce que je suis, à ce que je fais, à ce que je pense, eh bien, je veux te les avouer et te les faire connaître. Et la phrase de ce verset, c'est l'acte de foi et le message le plus important peut-être que David peut nous laisser. Il dit, et tu as effacé la peine de mon péché. La peine de mon péché. Ce qui est lié au péché et qui fait que y a une peine qui s'y attache dans ce que je vis, dans ce que je ressens, etc. Est-ce qu'on est prêt à vivre cela? Ça implique aussi un changement de mentalité, mais aussi un changement de ressenti. C'est-à-dire que la reconnaissance du péché peut simplement conduire à la peur. Hein. Et je revois la réaction d'Adam et Ève. Ça peut nous faire peur d'être confrontés au péché et de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment j'évite le regard de Dieu, etc. En même temps, hein, si je vais aux extrémités de la terre, dit le psalmiste, tu y es. Si, où que j'aille, tu es présent. Donc, essaye de fuir sous le regard de Dieu. Tu te rends compte que ce n'est pas efficace. Mais nous, on y croit. Hein. C'est comme les enfants qui mettent la main devant leur visage et disent « Tu ne me vois plus !» Puis nous, on fait la même chose avec Dieu. On met les mains devant notre visage et on dit « Tu ne me vois plus, Seigneur !» Hein ? Est-ce que je veux accepter de me laisser regarder par Dieu ? La reconnaissance du péché peut simplement conduire à la peur, mais ce n'est pas très efficace. Ça ne sert pas à grand-chose. Le changement de mentalité dans notre rapport au péché conduit à un ressenti, la tristesse selon Dieu dont parle Paul. Et puis cette tristesse produit, dit Paul, une repentance. C'est-à-dire que je ressens les choses différemment. Et ce n'est pas le pasteur qui doit me faire ressentir les choses. Moi, je pense que parfois, on donne ou on attribue à ceux qui ont autorité dans l'Église une autorité qu'ils n'ont pas à avoir et qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Ce n'est pas l'ancien, le pasteur, la sœur qui est ancienne ou autre, ou quelqu'un qui a une maturité spirituelle qui va me dire ce qui n'est pas bon pour moi. C'est moi devant Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et qui va dire, voilà, là, j'ai à vivre un chemin avec toi, Seigneur. Alors, changement de ressenti, oui. Changement de mentalité, changement de ressenti, mais aussi changement de volonté. Même la tristesse selon Dieu, aussi nécessaire soit-elle, ne suffit pas pour constituer une vraie repentance. Même si je peux pleurer pendant des mois, je vois même des personnes qui peuvent pleurer pendant des années, qui se lamentent, qui disent « Ouais, j'ai perdu ceci, oui, je suis comme ça. » J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, c'est une patiente qui était dans mon établissement de soins et qui venait au temps de partage et d'échanges bibliques qu'on avait toutes les semaines. Et dans les entretiens que j'avais avec elle, elle me disait « Oui, mais moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans, je voulais faire du piano, puis ma mère n'a pas voulu que je fasse du piano, et puis ça m'a handicapé toute ma vie. Puis aujourd'hui, j'ai 56 ans, 57 ans, et je vois bien que si j'avais fait du piano... » Vous avez combien de pianos dans vos poches que vous n'avez pas fait ? De choses qui sont là, où vous dites, voilà, je suis triste parce que je n'ai pas été, parce que je n'ai pas fait, parce qu'on ne m'a pas donné, etc. Or, quelque part, la repentance, c'est aussi de changer sa volonté, de ne pas rester complètement enfermé sur le regret et la tristesse d'eux. Vous avez des choses qui sont l'objet de votre tristesse. Aujourd'hui, Dieu dit, je veux que la grâce et la paix te soient multipliées. Alors, se repentir, c'est changer de volonté, se détourner radicalement du péché et rechercher le pardon qui se trouve auprès de Dieu en Jésus-Christ. Cet aspect de la repentance la rend visible parce qu'il se traduit par des fruits. C'est-à-dire que quelque part, on voit les fruits. Ça, c'est aussi quelque chose que le Seigneur nous donne de vivre. Les fruits de la repentance, c'est écrit. Hein. Si tu te repens, eh bien, on verra les fruits de cette repentance. Parce que, d'abord, la grâce et la paix seront en toi, mais le changement de mentalité, le changement de ressenti, le changement de volonté vont dans cette repentance te permettre de vivre différemment et les autres le verront. Dans ce verset, il est dit après que vous aurez souffert, il m'a donné tout ce qui contribue à la vie dans la foi, c'est-à-dire quand, le Dieu de grâce qui en Christ vous appelait à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même. Mais quelque part, il m'a donné tout ce qui contribue à la vie dans la foi. Ça, on le retrouve dans 2 Pierre 1-3, hein, le texte qui a été cité la semaine dernière. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut se dire « Ah ouais, mais moi, je ne peux pas. Je n'ai pas les capacités. Moi, je voudrais bien la grâce et la paix, mais manque de peau, je n'ai pas les capacités de Michel. Je n'ai pas celles de Juliette. Je n'ai pas... » On a entendu une parole ce matin qui disait « Pourquoi est-ce que tu regardes à l'autre ?» En toi, il y a tout ce qui contribue à ta foi et à ta piété. C'est-à-dire qu'il y a, tu ne peux pas dire à un moment donné, oui, mais moi, je n'ai pas la chance de l'autre ou je n'ai pas ça. Tu as en toi tout ce qui contribue à ta foi et à ta piété. Et après que vous aurez souffert, ça, j'avoue que moi, je l'ai rayé dans ma Bible. Parce que je trouve que ce n'est pas un verset utile. Hein, dans Pierre. Hein, il dit, vous a appelé à sa gloire éternelle et virgule, alors en grec, déjà, il n'y a pas de virgule en grec. Et juste après, c'est après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera, donc Dieu vous forme. Je dis, oh, pourquoi il faut que je souffre? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien nécessaire de souffrir? Et en fait, nous pouvons avoir toutes sortes de bonnes pensées sur nous-mêmes, mais jusqu'à ce que nous soyons mis à l'épreuve, en fait, nous ne savons pas si ces choses-là sont devenues des réalités en nous ou non. En quelque sorte, c'est comme un pommier ou une vigne. Si elle n'est pas émondée, si elle n'est pas taillée, si elle n'a pas souffert un petit peu, c'est ça qui va favoriser les fruits et qui va les rendre plus productifs. Dans nos vies, j'écoutais un témoignage d'un footballeur. Il y a sur France Info, il y a quelques semaines, et il disait, en fait, la victoire ne nous apprend pas grand-chose. Moi, je disais, bah, quand même, quand tu gagnes la Coupe d'Europe des clubs champions, tu te dis, ça apprend quand même que tu es bon. Voilà. Oui, mais il disait, mais ça n'a pas le même effet que les temps d'échec, ou en tout cas les temps de défaite. Il dit, ça peut être producteur de quelque chose de positif. Parce que la défaite ou les temps difficiles nous disent, là, tu as des choses à changer et à transformer. C'est vrai dans tous les domaines de la vie, dans ma vie professionnelle, dans ma vie affective, etc. C'est les moments où, tout à coup, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, etc., se retrouve mis en difficulté. Tout à coup, je dis, bah, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où est-ce que ça a coincé? Comment je peux améliorer? Comment je peux m'améliorer? Voir comment nous pouvons nous améliorer. Une équipe de foot, mais une église, c'est aussi la même chose. Comment nous pouvons rentrer dans une dimension plus pleine et entière que Dieu souhaite pour nous? Après que vous aurez souffert. Tout le thème du livre de Job tourne là-dessus. Job souffre afin qu'il puisse découvrir la grâce de Dieu. Il pensait qu'en faisant des sacrifices, en étant bon, en louant le Seigneur, tout serait parfait. Bah non, à un moment donné, comprendre qu'on dépend uniquement et pleinement de la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui nous permet d'avancer. Dieu ne nous permet pas de traverser des moments difficiles parce qu'il aime nous voir souffrir. Non, il les utilise pour que nous reconnaissions notre besoin de lui. Tout ce que vous traversez finit par vous être bénéfice. Car cela vous rend, me rend plus fort, renforce mon endurance. Cela développe ma capacité d'être dépendant de lui. Ouais, mais ça, enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas le plus facile pour moi. Alors, après cette question de souffrance, je vous la laisse à vous de voir comment vous allez l'appréhender. Il dira, après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et ça, c'est le plan de Dieu. Pour voir grandir dans sa relation avec lui, pouvoir expérimenter cette bénédiction qui renforce et la grâce et la paix. Alors, le premier mot, c'est « il vous formera lui-même ». En fait, le mot grec qui est là, ce n'est pas « former », c'est « katartizo », et ça veut dire « il vous réparera », ça dirait même plus « il vous ajustera ». Qu'est-ce que j'ai besoin d'être ajusté? Dieu m'a donné un outil pour m'ajuster. J'aime bien, monsieur Elisabeth. Il y en a plein qui ont dit, oh, le Saint-Esprit, oh, Jésus. Elisabeth, tout de suite, elle a dit, ta femme. Ouais. Ma femme, le Saint-Esprit aussi, au travers de ma femme, mais aussi vous. Il y a des personnes qui, ici, ont été pour moi des outils d'ajustement sur ma manière d'être, de faire, de parler, de concevoir mon service, etc. et vous m'avez ajusté. Est-ce que vous avez besoin d'être perfectionné, c'est aussi une des traductions, et d'être ajusté? Si vous dites non, c'est que vous êtes parfait, revenez me voir, j'ai besoin de modèles. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut m'ajuster dans tous les domaines? Si j'en ai besoin, ça veut dire qu'il y a tout le processus de repentance à reprendre et à voir et à vivre. Et je vous assure, la transformation, l'ajustement de Dieu dans notre existence, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, il vous formera, il vous ajustera, il vous affermira, c'est-à-dire être affermi et prendre la résolution de devenir plus fort, d'être plus ferme dans ses positions, dans ses pensées, dans sa manière d'être, d'être constant aussi là-dedans. Et puis, le mot suivant, il vous fortifiera, on dit, mais c'est la même chose que affermira. Non, c'est être plus fort, mais aussi au niveau de l'âme, de l'être intérieur, de plus être fluctuant. Il y a un coup de vent, et je suis une girouette. En fonction des coups de vent, je vais... Non, comment je peux être stable, être fort au niveau aussi de mon être intérieur? Et puis, être inébranlable, temelio. En fait, le mot inébranlable fait référence au fondement. Moi, parfois, j'ai vu dans la maison de mon voisin, il y a eu une tempête il y a quelques mois, et j'ai retrouvé des tuiles dans mon jardin, et puis sur son toit, qui sont obligées. Par contre, il y a une chose qui n'a pas bougé, c'est le fondement de sa maison. Par contre, le propriétaire qui lui a vendu ne lui a pas dit, mais il y a une véranda, et puis sous la véranda, il n'y a pas de fondation. C'est juste une couche de ciment sur la terre, etc. Du coup, ça se décale. À un moment donné, j'avais la largeur de ma main entre le mur de sa véranda et mon mur à moi. C'est-à-dire que vous avez la maison qui s'est écartée comme ça. En fait, ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous soyez avec des jours entre les murs, mais que nous soyons tous, et les uns et les autres, inébranlables, avec des fondements qui sont totalement sûrs. Et ce fondement-là, nous dit l'Écriture, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu veux avoir, est-ce que je veux avoir ce fondement-là dans ma vie? Être assis sur des fondements qui sont stables. Parce que c'est ça, la pensée de Dieu. Seigneur, nous avons tous besoin de nous repentir pour pouvoir avancer. Et chaque pas nouveau à faire est affaire de repentance, de confiance en toi, de changement, changement de mentalité, changement de pensée, tous ces changements qui vont nous conduire à être transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Alors oui, nous pouvons dire non. Je n'ai pas besoin, je ne veux pas, ou pas maintenant. Et il y aura de ta part un respect. Tu ne nous contraindras pas, tu ne nous forceras pas, et nous pourrons nous installer dans nos non, dans nos refus, dans le non-changement. Mais moi, Seigneur, je veux que tu multiplies la grâce et la paix dans ma vie. Alors oui, je suis pour que la tristesse de Dieu rentre dans mon cœur sur ce qui n'est pas changé, ce qui doit l'être et ce que tu désires. Donne-nous aussi en tant qu'Église à avoir cette tristesse sur ce qui n'est pas encore et que tu veux te voir advenir. Donne-nous le courage de la foi, l'humilité de la foi, la sincérité de la foi pour entrer dans cette phase de changement, dans nos vies personnelles, dans notre vie d'Église, afin que tu puisses véritablement rayonner en nous et dans ton Église. Amen.